Droit des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur.
En Auvergne-Rhône-Alpes.
Une balade dans notre région à travers
des sons,
des voix
et des rencontres.
Une émission proposée par les radios Dora FM
à la découverte des initiatives locales et des acteurs du territoire.
Aura des pâquerettes, la bien nommée, proposée par votre radio locale FM 43 et par le réseau Aura FM qui regroupe toutes les radios non commerciales d'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors cette émission est enregistrée au musée des croyances populaires du Monastier sur Gazeille. On est ensemble pendant une heure avec au programme aujourd'hui la découverte de ce musée avec Patrice Rey, l'auteur de tous ces tableaux. On a hâte d'en savoir plus sur toutes ces légendes du Velay. Puis Stéphane Laurent nous parlera des tisanes qu'il propose sous le nom de la Grange aux plantes. Il cueille et il cultive des plantes ici sur le plateau du Mezin. Il sera avec nous pour nous en parler. Et puis nous accueillerons une autre amoureuse du Mezin, Christine Arsenault, qui nous parlera de sa rencontre avec Lu Yongsong, qui est chinois, qui est un des grands maîtres de la peinture paysanne de Yinshan, qui est l'auteur de magnifiques, surtout qui est l'auteur de magnifiques tableaux représentant des paysages de Haute-Loire avec un style, on va dire, vivifiant. Et puis enfin, c'est Jérôme Liogier qui nous parlera de l'école de la nature et de toutes les activités pédagogiques que l'association propose à Collence, commune de Chadron.
Une balade dans notre région à travers
des sons,
des voix
et des rencontres.
Une émission proposée par les radios Dora FM
à la découverte des initiatives locales et des acteurs du territoire.
Bienvenue, je le disais, donc sur FM 43 et merci à toi, Patrice Rey, de nous accueillir dans le musée, ton musée des croyances populaires au Monastier sur Gazeille. Bonjour.
Bonjour, ben vous êtes les bienvenus.
Ce musée, il existe depuis quelques années maintenant et il s'enrichit pratiquement chaque année de nouveaux tableaux. On va découvrir avec toi quelle est l'essence de ce musée. Qu'est-ce qui a présidé à sa création, Patrice ?
Alors c'est un musée qui est basé sur des collectages qui ont été réalisés auprès de gens très âgés qui ont toujours vécu sur les plateaux, dans des fermes isolées et qui ont été interrogés pendant de nombreuses années à propos des contes et légendes qu'ils entendaient quand ils étaient petits. Et toutes ces histoires sont souvent fantastiques parce que leur culture était à la fois très superstitieuse et très religieuse, et ça apporte une explication du monde complètement différente de celle qu'on apprend à l'école. Et ils ont été interrogés aussi à propos des anciennes pratiques de médecine paysanne, où les soins n'étaient pas expliqués par la science ou la logique, mais surtout pas par la magie, et bien sûr à propos des vieilles histoires de sorcellerie qui servaient à expliquer tous les malheurs.
Alors c'est vrai qu'en sorcellerie, là on trouve tout le panel, hein. Si on se déambule dans les pièces de ton musée, on pourrait le faire, et j'espère que tu nous donneras quelques histoires tout à l'heure, les dernières par exemple que tu as pu produire. On a tout, hein. On a les lutins, on a les diablotins, on a les feux follets, on a les... Alors tout ça, c'est pas propre à la Haute-Loire, j'aimerais qu'on le précise tout de suite, même si tu t'intéresses à ce qui s'est passé dans le Velay, c'est pas du tout propre à la Haute-Loire, il y avait partout comme ça des histoires un peu partout.
Alors, c'est basé sur des collectages qui ont été effectués principalement dans le Velay, mais la plupart des choses qu'on a trouvées sont valables, existent aussi ailleurs. Il y a même des légendes qu'on peut situer géographiquement qui sont disputées par d'autres endroits. Voilà, une même légende va se retrouver dans plusieurs départements, voire même assez loin parfois. Par exemple, ici, dans le Velay, on a beaucoup d'histoires de loups-garous. Parce que c'est un territoire d'élevage et l'ennemi réel ou imaginaire de l'éleveur, c'est le loup. Et donc on a des peurs qui sont réelles, qui font partie du quotidien comme ça, et qui vont se répercuter dans ce monde fantastique. Et donc on se retrouve avec le loup-garou de Dignac, le loup-garou de Lafare, le loup-garou du Mont-Bel, le loup-garou de la Chaise-Dieu, le loup-garou de Chaturange, etc. etc. Mmh. Et en bas à gauche, bien sûr, avec la bête du Gévaudan.
Alors, toutes ces histoires, elles viennent du fond des âges, on va dire, elles se sont transmises de manière orale. Et le constat que tu fais, c'est que depuis une époque récente, elles sont en train de se perdre, d'où l'intérêt quand même d'avoir ce type de musée.
Ben, tout à fait, oui. Ces histoires ont été similaires pendant des siècles. Elles ne se sont pas transformées, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que beaucoup de ces contes qui étaient racontés pendant les longues soirées d'hiver avaient des moyens mnémotechniques pour rester toujours identiques. Par exemple, on avait beaucoup d'histoires avec un refrain que reprenaient les gens. C'est comme une chanson, c'est-à-dire ça passe de génération en génération sans se transformer. On avait aussi des contes avec parfois la dernière syllabe d'une phrase qui était la même que la première syllabe de la phrase suivante. Et donc, c'est resté identique. Moi, j'ai enregistré, par exemple, un très vieux monsieur dans la commune de Saint-Julien-Chapteuil qui racontait le roman de Renard en occitan, sans savoir que ça existait dans un livre. C'était passé de génération en génération comme ça. Il a été très étonné le jour où je lui ai apporté le livre. Mais vous voyez, le roman de Renard, ça ne concerne pas le Velay. C'est quelque chose de complètement universel.
Alors, tu fais bien de le rappeler, moi, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que ce n'est pas un repli sur cette culture qui serait locale, c'est vraiment l'univers des contes. Un conte, c'est sa définition, il est universel, c'est-à-dire que ce qui était raconté... Alors j'aimerais que tu parles des veillées pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est quelque chose qui, par contre, ce nom-là n'existe pas forcément dans d'autres régions. Les veillées ou veillades ont été le terrain, voilà, le lieu où se propageaient ces histoires.
Voilà, tout à fait. Alors ici, on dit plutôt veillade, en occitan plutôt qu'en français. Et c'était pendant ces longues soirées d'hiver, parce qu'on avait des hivers très rigoureux, bien sûr.
C'était avant ça.
C'était avant, oui, mais ça fait des cycles et ça peut revenir. On a des articles de presse où on voit jusqu'à 4 mètres de neige, etc. Et en fait, c'est pour ça que ça a été important de faire du collectage ici, parce que comme c'est un endroit qui a été plus isolé que d'autres, il y a beaucoup plus de contes, de légendes, de superstitions, de croyances qui ont été conservés. Il n'y en avait pas plus ici qu'ailleurs, mais dû à cet isolement de la montagne, de la neige, du peu d'habitants, ça a été raconté plus longtemps qu'ailleurs, ou certaines légendes ont été crues même plus longtemps qu'ailleurs. Il y en a donc davantage qui nous sont parvenus. C'est pour ça que c'est intéressant. Et il existait pendant ces hivers un lien social qui était très fort, qui était immanquable, qui était la messe le dimanche matin, où les gens quittaient les fermes pour descendre dans les villages, assister à la messe. Et après la messe, les hommes allaient à ce qu'ils appelaient la chapelle d'en face. Alors la chapelle d'en face, c'est le café, c'est le bistrot, et c'était là où se faisait tout le lien social. Et pendant les hivers, c'était à ce moment-là, au café, qu'un homme disait aux autres « Si tel soir dans la semaine, vous voyez une lumière devant ma ferme, c'est qu'il y a la veillade. » Et le soir dit, tout le monde surveillait la montagne en direction de la ferme de l'homme qui avait fait l'annonce pour voir si effectivement il n'avait pas sorti une lampe sur le bord de sa fenêtre pour attirer les autres. Et si oui, on affrontait deux peurs, la peur de la nuit et la peur du froid, pour aller passer une grande partie de la nuit chez l'autre, parce que... On partait après avoir cassé un petit peu la croûte au coucher du soleil et on racontait des histoires jusqu'à minuit. Parce qu'à minuit, on faisait la pesse, donc en français le morceau de pain, la tartine, avec un bout de saucisse et un morceau de fromage aux artisous. Là, je ne sais pas si tous les auditeurs connaissent le fromage aux artisous.
Non, mais c'est bien de le rappeler. Voilà,
donc, je vous invite à goûter le fromage aux artisous.
Voilà, une spécialité fromagère locale avec des petites bestioles dessus. Voilà. Font profiter avant que ce soit interdit, ça allait déjà aux États-Unis.
Voilà, c'était pendant ces soirées d'hiver que les gens, ils amenaient tous une bûche, un morceau de fagot pour participer au feu. Et on racontait le temps d'avant, parce que c'était mieux avant.
Oui, ça c'est universel.
Voilà, c'est comme ça. On a des gens, par exemple, ici au monastier, qui ont gardé la mémoire de par où les Anglais sont passés pour nous attaquer pendant la guerre de 100 ans jusque dans les années 50. C'est-à-dire qu'on a fait qu'il y a eu des collectages dans les années 50 où des gens très âgés du monastier expliquaient, regardez, ils sont passés par là, par tel pré, ils se sont cachés derrière les rochers pour attaquer, etc. Et c'est quelque chose de très étonnant. Moi, j'ai eu la chance de discuter avec un monsieur de Moudère, c'était dans les années 80, qui se souvenait de la Révolution française. Voilà, qui parlait de la Révolution française comme s'il y était. C'était, okay. C'était que
d'oral. Et le tracé d'Hannibal, alors il est passé par où ? T'as eu des infos là-dessus, non ?
Ça, non, malheureusement.
Ok. J'aimerais quand même, parce que bon, on est à la radio, quelqu'un qui vient au musée, qu'est-ce qu'il va trouver dans ce château abbatial ? Parce que déjà, c'est quand même agréable de venir dans un musée qui est dans un lieu comme celui-ci. Oui. Qui a une histoire, mais que va-t-il trouver en déambulant dans les différentes pièces ? Est-ce que tu peux parler de ton travail de plasticien cette fois-ci ?
Oui, alors d'abord le visiteur va trouver de la fraîcheur en cas de canicule, et c'est un endroit très agréable, hein, voilà, avec une différence de température assez importante avec l'extérieur. Et disons que toutes ces croyances, légendes, superstitions, etc. sont illustrées dans le musée, soit par des dioramas avec des figurines que j'ai sculptées et peintes, soit par des tableaux. Et donc, il y a des petits textes qui accompagnent tout ça, hein, qui sont le plus court et le plus précis possible pour éviter d'embêter les gens. Une bande-son où on entend des collectages, mais sur rendez-vous, on peut me demander de faire une visite où moi, je prends les gens par groupe, il faut au moins une dizaine de personnes, et où je raconte, à travers les salles du musée, l'essentiel, le principal de cette culture populaire paysanne qui a quasiment disparu aujourd'hui.
Voilà, et ça s'appelle le Musée des croyances populaires au Monastier-sur-Gazeille, et vous aurez les explications assez souvent, hein, tu es là, hein, tu fais partie des murs,
oui,
Patrice.
Oui, voilà. Mais de toute façon, il y aura toujours quelqu'un de suffisamment bavard,
voilà,
hein, pour vous expliquer tout ça.
En tout cas, encore merci pour ton accueil. Dernière question, j'ai envie de te demander, le confinement qu'on a vécu, est-ce qu'il ne nous a pas ramené un peu à cette période où les gens étaient chez eux, un peu isolés ? Et si oui, est-ce que ça a pu donner naissance à quelque chose d'identique à cette époque-là ?
Alors ici, dans la montagne, le confinement a toujours existé.
Oui.
Voilà, moi je connais des gens qui sont âgés aujourd'hui, comme les papis qui jouent aux boules dans la cour du château ici. Il y en a un qui avait sa ferme entre Haute-Loire et Ardèche sur la route du Béage et qui me raconte que chaque année, chaque hiver, il faisait des provisions parce qu'il était bloqué par une congère de 7 mètres. Donc le confinement a toujours existé. Et dans le cas de maladies contagieuses, les gens ont toujours compris de quoi ce qui leur arrivait. Quoi, voilà. Dès la première grande peste, c'était au XIVe siècle, hein, mi-XIVe siècle, la première grande peste qui arrive, de Chine, hein, comme toujours. Les gens se demandaient pourquoi Dieu nous fait mourir. Alors les gens sortaient les statues des églises, les portaient sur des brancards, faisaient des processions, avec toute la population derrière qui priait, qui se flagellait. Et on disait, ça continue, hein, on continue de mourir, donc c'est pas Dieu. Et donc si c'est pas Dieu, c'est pas le diable, parce que Dieu le combattrait. Ils se disent, est-ce que ce sont les astres ? Donc ils demandent aux savants, qui étaient à la fois les médecins, les astrologues, etc., est-ce qu'il y a une conjonction, un alignement de planètes et tout ? Non, il n'y avait rien du tout. Et les gens se disent, il y a quelque chose dans l'air qui est trop petit pour qu'on le voie.
Ah, ils avaient
voilà,
déjà la...
Et c'est cette chose qui nous fait mourir.
La suspicion.
Et donc il faut qu'on se parle de loin. Voilà. Et ils ont appelé ça des miasmes. Alors peu importe que ce soit des virus, des microbes, des bactéries, ce sont des miasmes, ils avaient compris... C'était quelque chose de trop petit pour qu'on le voie et qui était dans l'air et que justement c'était en se parlant de trop près, hein, que ça nous tuait, quoi. Voilà, donc on a toujours.
Je sens
compris.
Que ça va donner naissance à un tableau bientôt, ça.
C'est possible.
Un microbe comme ça. Alors, j'aurais aimé que tu, juste parce que quand je te lance là-dessus, parler de la télévision parce que. Pour nous, hein, chaque fois qu'une télé s'allume, un cerveau s'éteint. Et,
oui.
c'est un peu ça. Pendant le confinement, on a vu les gens consommer de plus en plus d'écrans. Et quelle est ta vision par rapport à ça ? Est-ce que ça ne vient pas ajouter encore, tuer un petit peu plus dans l'œuf les histoires qui...
Alors moi, je n'ai pas la télévision, donc je ne sais pas si...
Oui, ben, je te rassure, voilà. Ça devient un cas à part.
Voilà, donc moi, je n'ai pas la télévision, mais c'est vrai que... c'est la télévision qui a remplacé toutes ces histoires au moins millénaires, sinon plus. Moi, il m'arrivait de faire du collectage chez des gens, alors franchement, des fermes, comme il n'en existe plus ou quasiment plus, où dedans, c'était tout noir. avec le sol en terre battue, oui. Les poules dans la cuisine, la tronçonneuse dans
les Pierre Desboutières. Je m'encourage les internautes à aller voir Pierre Desboutières.
Par exemple, voilà, Pierre qui faisait de la soupe pour 13 jours.
Parenthèse refermée.
Voilà. Et j'allais dans des endroits comme ça où il n'y avait pas l'eau dans la cuisine, mais il y avait la télé.
Ah oui, voilà.
Voilà. Alors, pour avoir un ordre d'idée, l'eau courante a été installée dans les fermes sur les plateaux du Mézin en 1978. Vous voyez, il y avait la guerre des étoiles au cinéma, il y avait Star Wars en 77 et de l'eau et des robinets en 78. Donc, vous voyez le décalage qui fait aussi qu'on a conservé toutes ces histoires comme ça. Et quand on a apporté l'eau aux gens, on leur disait, on vous pose en robinet gratuitement, où est-ce que vous le voulez. La plupart des réponses, c'était soit dehors, soit à l'étable. Quoi. Et donc, moi, je connaissais des maisons où il n'y avait effectivement pas l'eau dans la cuisine, mais où il y avait la télévision.
Avec tout ce qui va avec et qui a forcément un petit peu détruit.
Voilà, mais c'est la télévision qui, on va dire, qui unifie toutes les cultures du monde, et puis peut-être pas vers le haut, quoi, et qui détruit toutes les particularités qui font qu'on a moins de choses à échanger avec les autres, finalement.
Voilà, bon, mais je crois que avec cette phrase, tu as bien résumé ce qu'on peut en dire sur le sujet. Merci beaucoup, Patrice. Alors, le musée des croyances populaires, c'est ouvert tout l'été, bien sûr, mais c'est aussi ouvert le reste de l'année dans l'accueil des scolaires et puis des groupes.
Voilà, c'est ouvert toute l'année. On a eu une saison d'été qui se termine le 30 septembre, où c'est ouvert tous les jours, sauf les lundis, à partir de 14h30. Et c'est ouvert toute l'année sur rendez-vous, bien sûr, pour tous les groupes. Pas seulement les scolaires, tout groupe est bienvenu au musée. Bon. On fait aussi des conférences, on publie des livres et on fait beaucoup d'interventions scolaires.
Eh bien, je te remercie encore pour l'accueil et longue vie à ce musée. On se retrouve dans quelques instants avec Stéphane Laurent pour parler de la Grange aux Plantes.
Now is the flowers. Some secondhand sundials and a new calendar at my cooking clock. All of a sudden I was elder of several past and some story pastries. But your walking man music always wakes up my body and soul. Sail it again, sing a little on. I'm yours, I'm yours.
D'abord, pour que l'auditeur comprenne, la Grange aux Plantes, c'est quoi cette activité ?
Alors, c'est une production de plantes aromatiques et médicinales. Et après, cueillette sauvage. Voilà.
D'accord, tu as les deux, c'est-à-dire production et cueillette.
Ouais, production en plein champ.
D'accord.
Et puis cueillette sauvage, donc soit sur mon terrain, en fait, la plupart du temps. Et puis après,
il est où ton terrain pour
Alors,
que...
c'est Fresnay-la-Cuche.
Ouais.
Donc, c'est à 1100 mètres d'altitude.
D'accord.
Et je suis à l'écart du village, donc voilà quoi. C'est un ancien pâturage.
D'accord.
C'est du terrain de famille. Voilà quoi.
Ok. On reviendra un petit peu après. Ça fait suite à une autre expérience professionnelle. Tu étais dans la technique et le spectacle.
Ouais, c'est ça, exactement. J'étais dans le spectacle. Je m'occupais des régies de sonorisation, en fait. Et puis, les dernières années, j'étais sur une maison pour tous à Chadrac, sur tout ce qui était musique actuelle. Donc, gestion des groupes en répétition. Et voilà.
Alors, si ce n'est pas indiscret, quel est le cheminement qui t'a poussé vers la nature ? Parce que la technique, c'est loin.
En fait, en gros, quand j'ai eu fini, c'est j'ai expliqué parce que j'avais postulé après aux Estables en fait, pour la saison d'hiver. J'avais fini en décembre à Chadrac. Et en gros, j'avais passé à peu près une trentaine d'années dans les salles de spectacle, donc dans le noir. Et là, j'avais envie d'être à l'air libre, quoi. Et puis, c'était aussi parce que j'avais, depuis moult années, enfin, je suis installé là-haut depuis à peu près 20 ans, 25 ans, quoi. Et je faisais de la cueillette pour moi, donc pour des tisanes. Voilà,
c'est quelque chose que tu faisais
depuis longtemps. Ouais.
Déjà, non ? D'accord.
Et puis qui date aussi, après, si on remonte, après, au cours des formations, enfin, il y a ma grand-mère qui en faisait. Enfin, voilà, quoi.
D'accord.
Donc, ça va beaucoup plus loin.
À titre personnel, pour le côté médicinal de ces plantes ou simplement le côté plaisir
Non, le côté plaisir surtout.
D'accord.
Le côté plaisir et puis médicinal parce que je ne suis pas très médecine conventionnelle. Et je suis plutôt orienté vers, on a parlé de la Chine, enfin voilà, médecine à côté, médecine chinoise, des choses comme ça. Quoi. Mmh. Et puis du coup, les plantes qui viennent, enfin voilà quoi. Parce que ça permet de soigner beaucoup de choses. Et puis des souvenirs de ma grand-mère qui soignait par les plantes. Quoi. Donc voilà, donc j'ai essayé aussi.
C'est vrai que tout à l'heure, on n'a pas abordé avec Patrice, mais il y a ces fameuses les pierres à venin qui protègent, les plantes, les herbes, on aurait pu en parler. Et c'est vrai que ça aussi, c'est une histoire... je me souviens, il y a une exposition qui tournait en Haute-Loire sur les plantes et la médecine traditionnelle qui existait avant cette médecine, là encore, bien formatée, basée sur des prescriptions de médicaments. Qui existait partout, mais y compris en Haute-Loire. Alors, c'est un choix de t'installer sur le plateau du Mézin, où c'est le côté pratique. Parce que tu trouves les plantes vers lesquelles tu voulais te diriger, elles se trouvent sur le plateau du Mézin.
Ouais, c'était une question, enfin pratique, parce que j'habitais là-haut.
Ouais.
Depuis 25 ans, j'habite là-haut. D'accord. Quoi. Parce que j'adore ce coin, et puis parce qu'il y a au niveau des plantes, en fait, il y a vraiment plein de choses à cultiver. Moi, je fais pas venir des plantes d'ailleurs. Je fais que où je les cultive, en fait, dans mon champ, où je fais de la cueillette sauvage, mais là-haut, quoi.
D'accord.
Donc, je fais maximum, je dois faire... les premières cueillettes que je fais, c'est aux alentours du monastier. Donc, ça fait 10 km. Et après, c'est vers le Mézin ou autour de chez moi, quoi.
Alors, pour cela, il a fallu arpenter aussi. Hein. Ça veut dire que tu es aussi un randonneur, j'imagine, à la base.
Ouais, j'ai fait... Ouais. J'ai pas mal arpenté là-haut sur les plateaux, et puis du coup la découverte, et puis des rencontres aussi. J'ai fait une formation chez un copain qui est à Saint-Franc, donc à la même altitude que moi, et qui fait ça depuis plus de 10 ans. Quoi.
On peut le citer. Hein,
oui, c'est Marc et Yann Joubert.
D'accord.
Et du coup, c'était ça aussi. Puis les plantes, juste avant de commencer, j'ai fait une petite étude sur le nombre de plantes que je pouvais avoir sur mon terrain, et en fait, donc on qualifie un terrain qui est de qualité à partir d'une vingtaine de plantes. Et du coup, j'arrivais à plus que ça. Quoi. Donc, du coup, après, et puis c'est des plantes qui sont là, à disposition. Quoi.
Okay. Si on revient à la culture, quel mode de culture tu as choisi ? Parce qu'il faut aussi labourer. Il faut...
Ouais, alors non, pas de labour.
Pas de labour.
Pour l'instant, je travaille juste avec une houe, en fait.
D'accord.
Donc, j'ai des herbes. Pendant le confinement, j'ai pu attaquer beaucoup plus tôt. Donc désherber comme ça, travailler le terrain, faire un but. Et puis là, dans un avenir proche, j'espère, travailler avec en traction animale, en fait, avec deux ânes.
D'accord.
Que j'ai, donc.
Ok. Ça aussi, c'est un projet.
C'est
du travail.
Mais voilà, on a fait école pendant le confinement aussi, école à la maison avec les ânes. Et puis, on va continuer à l'automne. Et l'idée, c'est ça, c'est pour être vraiment... parce que c'est super travailler avec eux, parce qu'ils apprennent vite. Et puis, Et puis c'est le silence, ça tasse pas le terrain, c'est voilà.
Ok.
C'est tout un.
D'accord. Alors quand on change comme ça d'activité vers et qu'on met le mot médicinal, qu'est-ce qu'il existe comme pour se former, pour se documenter, pour quelle a été ta stratégie pour, parce que c'est vrai que après tu as des questions sur les marchés quand tu vends, alors cette plante, cette plante, cette plante.
Alors il faut que je précise qu'en fait à la base on n'a pas le droit de donner des conseils thérapeutiques en fait au niveau des plantes. Il n'y a que les pharmaciens qui ont le droit. Donc après moi je mets un livre à disposition sur le stand en fait où les gens peuvent consulter.
D'accord.
Après j'avoue que ça n'empêche pas les discussions là-dessus quoi. Mais voilà quoi. Officiellement on n'a pas le droit quoi. Après,
alors toi, pour te former à ces...
À la base, en fait, je suis autodidacte puisque j'ai commencé ça il y a très longtemps. Puis des bouquins, pas mal de bouquins. Et puis après, c'était surtout les rencontres avec notamment Marc et Anne, en fait, avec qui j'ai arpenté des terrains et puis des conseils. Puis parce qu'ils sont dans la transmission aussi de leur savoir. Et ce qui était vraiment super, quoi. Après, il y a des écoles... d'herbaliste maintenant. Avant c'était herboriste, mais c'est herbaliste.
D'accord.
Donc voilà, après, ouais.
Alors, est-ce qu'il y a une plante qui t'a surpris par ses propriétés depuis que tu t'es lancé là?
Depuis que je me suis lancé.
Ouais, ou est-ce que tu as une plante que tu affectionnes particulièrement?
Ouais, il y en a plusieurs, mais notamment la reine des prés, ouais. La reine des prés, parce que à la base, c'est le principe de la spiraille.
Dans une émission qui s'appelle Aura des pâquerettes, on est bien.
Non, mais la reine des prés, il y a l'aquilée aussi, qu'on trouve dans les prés. L'aquilée, puis après, il y en a plein d'autres, en fait. Là, dernièrement, j'ai fait au printemps, là, du primevert, en fait, le coucou.
D'accord.
Donc, des choses comme ça. Ouais.
Et donc là,
on trouve localement.
Tu sais très bien te retenir parce que tu ne donnes pas les propriétés.
Non,
c'est vrai qu'on est face à ça. Et moi, chaque fois que j'ai des gens en interview, j'ai quelqu'un, l'olfactothérapie, ils prennent énormément de précautions pour ne pas froisser la médecine, on va dire, qui prescrit, qui. Voilà. Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a. Quand tu as signé quelque chose ou c'est simplement une éthique que tu t'es donnée? Comment ça marche? Parce que vous êtes nombreux à pratiquer des médecines dites douces ou alternatives.
Ouais. Après, c'est parce que ça fait partie de la loi, quoi. Donc après, on n'a rien à signer. Moi, je suis. En fait, je suis producteur, donc je suis agriculteur. Donc je produis des plantes et je fais de la cueillette. Et puis voilà, après je vends, donc parce que quand tu produis, donc tu as le droit de vendre jusqu'à un certain domaine, quoi, mais voilà quoi.
Alors justement, ta production sous forme de tisane uniquement?
Ouais, sous forme de tisane essentiellement. Ouais.
Ok.
Ouais.
Les points de vente, c'est important ça. Si vous voulez trouver la production de Stéphane Lagrange aux plantes, où est-ce qu'on va?
Ouais, quatre dépôts, c'est des magasins de producteurs, et notamment au Monastier, là, c'est Vesson.
Oui, on est pas loin.
On est pas loin. Il y a Chadron aussi à l'auberge Auberge Sauvage, parce qu'il y a un petit magasin, en fait, ça fait gîte, auberge, et il fait un petit magasin, en fait, où il travaille avec des produits locaux. Il y a les Ruchers du Mézin, aussi, qui sont producteurs en miel et qui ont des produits locaux. Et puis là, prochainement, donc d'ici 10 jours, au Pain Fermier à Brive-Charensac, qui sont aussi producteurs.
D'accord. Donc 4 ou 5 points de vente.
Voilà, et puis après des marchés. Voilà. Je suis sur les marchés aux Estables jeudi matin et dimanche matin.
D'accord.
Et pendant
l'été ou toute l'année?
De mai à octobre, en fait. Jusqu'au mauvais temps, en fait. Après, quand il fait trop mauvais, j'y suis pas, quoi, en fait.
Bah oui.
Parce que, en fait, ça abîme les sachets, ça abîme les plantes. Enfin, voilà, ça reprend l'humidité. Donc,
D'accord.
Et les marchés au Monastier, il y a un marché, en fait, pendant tout l'été, marché de producteurs les jeudis soirs de 17 à 19h.
D'accord. Ben, on te remercie pour la présentation de cette belle activité, belle reconversion. La Grange aux Plantes, à Fresnay-la-Cuche. Et merci, merci Stéphane.
Merci à vous.
Alors oui, comme on le disait, Aura des pâquerettes, l'émission qui prend de la hauteur en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce programme se veut être une invitation à découvrir les initiatives locales. Vous, Jérôme Lieuger, vous travaillez, même dirigez, une initiative locale en Haute-Loire, l'École de la Nature à Chadron. Colonies, stages, camps, tout ça, on y reviendra plus tard. Pour l'heure, vous êtes avec nous au Musée des Croyances Populaires. Déjà, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur FM 43 et sur Aura FM. Alors, en quelques mots, comment vous pourriez vous présenter?
À la base, animateur, animateur nature. Alors c'est vrai qu'après, on prend des responsabilités, on dirige une équipe, on dirige une entreprise. Mais à la base, c'est bien l'envie d'emmener des enfants au contact de la nature pour leur offrir un contact sain et direct avec l'environnement. Donc voilà, notre véritable métier, c'est animateur nature qui s'est enjoli au fil du temps avec le titre d'éducateur en environnement. Parce qu'on s'aperçoit que d'un côté, on peut faire des choses sur le principe du loisir, simplement aller se promener, faire des cabanes. Ça fait partie de la découverte de la nature. Mais à côté de ça, maintenant, c'est une réelle profession que d'éduquer à l'environnement, sans rentrer dans l'écologie extrémiste ou quoi que ce soit. Mais on peut éduquer des enfants pour leur expliquer comment fonctionne la nature, comment fonctionne un arbre, les interactions entre les plantes et les animaux. Voilà, c'est un métier d'éducateur.
Oui, ça prend encore plus de sens en cette période de Covid-19, sortie de confinement, où on apprend à consommer encore plus local, encore plus de proximité. Du coup, j'imagine que ça a plus de sens.
Je ne sais pas. J'ai surtout l'impression qu'aujourd'hui, on se dit, oui, on a eu raison de le faire il y a 25 ans. Parce qu'effectivement, les gens ont envie de ça aujourd'hui, mais ils en avaient aussi envie il y a quelques années. C'est simplement nous, on se dit, bah oui, on a eu raison de le faire il y a 25 ans, parce que finalement, voilà, on en demande aujourd'hui, on a envie d'être dehors, d'être dans la nature.
Alors voilà, donc l'École de la Nature, c'est une association de loi 1901, c'est ça ?
Oui, effectivement.
On y reviendra un peu plus tard, mais vous êtes donc situé à Colamps.
Voilà, sur la commune de Chadron.
Sur la commune de Chadron. Vous dites que sur votre site, vous dites que c'est le village sauvé des eaux.
Oui.
Il y a une réelle histoire par rapport à ça.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous la raconter ? Est-ce que vous êtes conteur de cette histoire ?
Oui, alors conteur, je ne sais pas, parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires, plein de choses sur ce village. Juste pour faire un petit peu d'historique, nous, l'École de la Nature, c'est une structure qui s'est créée en 96 et qui, pendant des années, pour accueillir des enfants sous forme de classe de découverte, naviguer sur le territoire de la Haute-Loire pour chercher des structures d'hébergement. Un jour, on a eu envie d'avoir notre propre structure d'hébergement parce qu'on savait exactement ce qu'on voulait pour les enfants. On savait ce qu'on voulait en salle de classe, on savait ce qu'on voulait en couchage, en prestation hôtelière, sur les repas qu'on allait proposer. On voulait vraiment avoir une prestation qui nous appartienne. Et là, pendant 10 ans, on s'est mis à chercher tout ce qui pouvait se trouver en bâtiment, en terrain, et notamment sur le secteur Mégal, Mézin, en Blavaise. Et puis un jour, le maire de la commune de Chadron est venu frapper à notre porte en nous disant « Bon, l'École de la Nature, on sait que vous vous intéressez à une structure d'hébergement. Nous, on a peut-être une maison à vous donner. Elle se trouve à Colance. » Alors pourquoi Colance ? Pourquoi une maison qui pouvait se donner ? Tout simplement parce que dans les années 80, quand il y a eu les inondations sur la Loire, l'État a décidé de faire plusieurs barrages sur différents cours d'eau, dont un qui se serait appelé le barrage de Serre de la Fare, qui aurait été construit juste en dessous du village de Colance. Sauf que comme on a la gazelle qui se jette dans la Loire, si un grand mur avait été monté sur la Loire, le niveau d'eau serait monté jusqu'à Colance, et 15 mètres au-dessus des charpentes, 15 mètres d'eau, aurait fait que ce village aurait été englouti. Donc à l'époque, se sont montées toutes les associations un petit peu écolo qui ont manifesté, qui ont gagné, et heureusement pour l'environnement. Ce village a été sauvé des eaux, le barrage ne s'est jamais fait. Sauf que la commune s'est retrouvée à l'époque avec un village complètement en ruine,
complètement.
Des arbres qui poussaient à travers les toits. Et là, il fallait refaire quelque chose. Et c'est là que le partenariat s'est installé entre la commune, la communauté de communes et l'École de la Nature.
Alors, moi, je trouve votre histoire, mais encore plus votre structure, assez impressionnante, puisque, donc, comme vous l'avez dit, donc, l'association se monte en 96, c'est
96,
ça ?
Janvier 96.
Vous vous installez à Colance en 2014 avec toujours cette idée hyper précise de ce que vous voulez.
Exactement, mais disons que c'est une. Quand on s'est installé à Colance, on y avait réfléchi pendant plus de 15 ans.
Ouais.
Donc,
Et du coup, quel est l'objectif ? On en a un peu parlé au début, vous l'avez un peu fait pressentir, mais l'objectif derrière cette École de la Nature à Colance, c'est vraiment d'éduquer ?
C'est d'éduquer l'environnement. Avant tout, c'est déjà que les enfants passent des moments agréables dans la nature. Voilà, ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, oui, c'est d'éduquer parce que 90% de notre activité se passe en période scolaire. On rentre dans un programme de science, on est dans la démarche scientifique et on vient en fait en appui aux enseignants qui viennent chez nous pour travailler sur les volcans, les animaux, le jardin, le développement, la forêt. En fait, on se considère comme un outil au service des enseignants. Mais oui, notre intérêt, il est de voir des enfants dès l'âge de 2 ans ou jusqu'à 17 ans être contents d'aller se promener dans l'environnement.
Donc votre principale cible à l'heure actuelle, c'est les salles de classe.
C'est les écoles. Oui, écoles. Notre principal public, c'est les enfants de 2 ans et demi, de la petite section de maternelle, jusqu'au CM2. Voilà. On ne travaille pas avec le collège, on ne travaille pas avec le lycée parce que c'est un autre métier, c'est un autre public, on n'est pas formé pour ça. Et nous, ce qui nous plaît honnêtement, c'est ces enfants qui ont entre 2 et 10 ans et qui peuvent s'émerveiller parce que voilà, dans un jardin, on a été planter des fleurs et déjà, il faut expliquer pourquoi on a mis des fleurs dans un jardin. Et on est encore plus content quand on voit des petites bêtes qui viennent s'y poser dessus. Donc, le sourire des enfants nous, est une partie de notre salaire quand même sur notre travail.
J'imagine bien, ça doit énormément compter. En tout cas, donc vous proposez des colonies, des camps, des stages.
Oui, alors les colonies existent encore chez nous. Ce sont 4 à 5 semaines qui se déroulent sur l'année. C'est 10% de notre activité. C'est quelque chose qui nous coûte quasiment plus d'argent que ce que ça nous en rapporte. On continue à le faire, je dirais pas par plaisir, mais presque. C'est surtout qu'on se rappelle que quand on s'est créé en 96, c'était l'essence même de notre activité. C'était découvrir le milieu aquatique, notamment par la pratique de la pêche. Et à l'époque, c'était 60% de notre activité. Au fil du temps, on a fait autre chose, on a fait du scolaire, mais on n'a pas eu envie de perdre ce contact où finalement on est capable de passer 12 jours d'affilée avec une bande de jeunes de 6 à 17 ans, parce que ça nous permet voilà, de vivre autre chose. Il y a le temps où on est dans la nature, et puis il y a toute cette vie collective qu'on va passer avec les enfants, et que les membres d'une équipe d'animation vont passer ensemble. Voilà. Donc l'été, c'est vas-y, on y va, on passe 5 semaines tous ensemble, on est là pour s'amuser, pour prendre des vacances. C'est fatigant, mais on continue à le faire parce que voilà, c'est l'essence même de l'école de la nature en 96.
Est-ce qu'il y a un constat derrière tout ça, derrière toutes ces choses mises en place, ces camps, ces stages, c'est pour éduquer la nature, pour vivre ensemble? Est-ce qu'il y a un constat sociétal ou pas forcément?
Moi qui suis depuis 25 ans et qui avais commencé l'expérience à la Maison pour tous de Chadrac, même en 1994, où avait été créé le premier centre d'activité sur la rivière, la pêche et l'environnement, ce qui faisait les initiales du mot CARP d'ailleurs, d'accord, au passage, on s'aperçoit que les enfants ont changé. Les enfants ont changé pour respecter la nature. En 1994, quand j'attaquais en tant qu'animateur nature, on était dans le discours « jetez pas vos papiers, ça se fait pas de jeter les papiers par terre ». Aujourd'hui, on ne le dit plus. On le dit plus. De toute façon, il n'y a plus d'enfants qui jettent les papiers par terre. On a encore quelques générations d'adultes qui sont capables de vider un cendrier en étant arrêté à un feu rouge, mais on voit que les enfants d'aujourd'hui sont nettement plus respectueux de l'environnement. Ça, c'est un constat, et on se dit, on y a participé. Il n'y a pas que nous, il y a les parents, il y a les grands-parents, il y a les écoles, mais on y a quand même été pour quelque chose à un moment, et on est content de faire ce métier pour ça.
Ils sont respectueux de la nature, mais est-ce qu'ils la connaissent? Est-ce que votre travail
n'est pas
de faire connaître
si,
la nature?
Ça, c'est notre boulot. Déjà, on les amène dans la nature pour qu'ils se fassent plaisir, mais après, oui, on est là pour leur l'expliquer. On est vraiment sur ce qu'on appelait avant les sciences naturelles, les sciences de la vie et de la terre. C'est notre boulot, sauf qu'on est là pour le faire dans un autre cadre, déjà dans un cadre paradisiaque qui est le village de Collens. Et nous, on est surtout là pour qu'en fait, ils apprennent sans s'en apercevoir. Mm-hmm. Ils sont là pour jouer.
Oui.
Et à la fin de la semaine, ils auront vite vu qu'ils ont compris des choses et qu'ils ont découvert des choses sur la nature. Après, nous, on fait attention de n'avoir aucun discours écolo sur ce qu'on fait. On n'est pas là pour dire, attention, casse pas la branche de cet arbre. Ça sert à rien. S'il a décidé de la casser à un moment, il l'aura fait. Voilà, point. On est là plus pour lui dire, comment ça fonctionne un arbre? À quoi ça sert des branches? À quoi ça sert des racines? Qu'est-ce qui circule dans l'arbre? Qu'est-ce que l'arbre va nous apporter? Et on espère qu'entre notre discours, celui des parents, des enseignants, des grands-parents, et bien finalement, l'enfant, il comprendra un jour que peut-être bien plus tard, que s'il a cassé la branche d'un arbre quelques années avant chez nous, bah, il a peut-être fait une boulette, quoi. Parce qu'il sait que finalement, ça aura manqué à plein de choses dans la nature.
Donc là, à l'heure actuelle, Jérôme Lugier, vous êtes directeur de l'école de la nature à Chadron, enfin à Collens, commune de Chadron.
Voilà, exactement.
Les deux passes.
Oui, en fait, Chadron est une commune qui fonctionne par petits hameaux,
d'accord,
et qu'ils appellent des villages. Il y a le village d'Archinaud, il y a le village d'Anzillon et il y a le village de Collens. Mais on dépend bien de la commune de Chadron.
Est-ce que du coup, là, avec tout ce qu'on vient de dire, ça a un réel sens, votre localité à Collens?
Ah ben oui, on est à 30 mètres du premier ruisseau, 80 mètres de la première forêt, 100 mètres du premier volcan, à 800 mètres de la confluence Loire-Gazeille. Donc oui, c'est le paradis. On peut se permettre de passer une semaine ou 12 jours chez nous sans bouger. Il y a tout.
C'est presque la capitale de la France.
C'est le paradis de l'éducation, l'environnement surtout. Voilà, on est bien. Le cadre déjà permet de s'immerger et on fait en sorte d'utiliser le moins possible les transports pour aller sur le site.
Okay. Vos projets à venir pour l'école de la nature?
Passer la crise, parce que ce n'est pas une situation facile à vivre, puisque les groupes scolaires étant notre principale cible, on a besoin que les écoles repartent, que les enseignants aient envie de repartir, que les parents fassent confiance à leurs enseignants. Donc le premier objectif, c'est de repartir. Ensuite, c'est de maintenir des équipes en place. Parce que si on veut faire du bon boulot d'éducateur à l'environnement, on ne peut pas embaucher des équipes d'animateurs vacataires. Il faut des gens qui vivent, qui touchent un salaire, qui vivent de ça, qui vivent de leur passion, mais qui soient capables d'en vivre durablement et pour longtemps. Voilà. Après, il y a toujours des petits projets de maraîchage qui voudraient se raccrocher à ce qu'on fait, parce qu'on aimerait aller un petit peu plus loin dans notre prestation au niveau restauration. Et en collectivité, ce n'est pas toujours simple de faire tout local, de faire tout bio. Il faut composer de façon savante pour les chefs de cuisine. Donc voilà, on aimerait un jour arriver à avoir une partie de notre culture qui permette voilà, d'alimenter les assiettes des enfants au niveau des légumes.
Oui, parce que ce qui est important de dire, que je n'ai pas précisé, je m'en excuse, c'est que la nature, c'est une réelle culture aussi. C'est qu'il y a la nature qu'on découvre en allant dans la nature, mais il y a aussi un mode de vie presque naturel.
Oui, forcément. On reconstitue de toute façon une petite société sur notre village. Quand on a 50 ou 60 enfants qui sont avec nous, on reconstitue une petite société avec tous les soucis qu'il peut y avoir et entre les enfants et par rapport à du développement durable, parce que 50 ou 60 enfants dans un petit village, ça crée des déchets, il y a des choses à recycler. Donc voilà, il y a la partie nature. Et puis après, il y a plein de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ça se passe bien et qu'on se tire un petit peu vers le haut sur le développement durable.
Au niveau, si on veut plus d'informations sur l'école de la nature.
Alors, il y a un site internet qui s'appelle écoledelanature.com.
Un site internet, écoledelanature.com, voilà. C'est tout simple.
On qui est actualisé en permanence.
Actualisé en permanence. Si on veut vous contacter, donc le site web, les réseaux sociaux, j'imagine.
Pareil, oui, le Facebook École de la Nature.
École de la Nature, si bien vous êtes de partout. Vous êtes autant dans la nature que sur le web. J'aimerais parler, pour finir cette interview, du festival Le Chadron Magique. Le Chadron Magique, c'est un festival que vous organisez à Colence.
Effectivement.
Quelle est l'offre que vous présentez avec ce festival ?
Des spectacles pour toute la famille, sans avoir une thématique ou un fil conducteur. On va avoir des spectacles qui sont en double lecture, aussi bien pour des enfants de 3 ans que pour les grands-parents qui vont les accompagner. Mais le but, c'est de pouvoir se retrouver dans un cadre sympa, avec une petite jauge, parce qu'on n'est pas un festival à 3 ou 4 000 personnes, on est un festival à 700, 800 personnes par jour, dans notre grand domaine. Donc voilà, une offre qui change. Alors on s'est cherché un petit peu les premières années, puisque là on arrive en 4e édition. À l'origine, on se disait, on va faire un festival, il y aura des spectacles dans la journée pour les enfants, et le soir, on va essayer de faire quelque chose pour les parents. Donc, première année, on a fait venir les stars des années 80 pour un concert avec Lio, début de soirée, la Macarena. La deuxième année, on a eu Michael Jones, donc l'alter ego de Jean-Jacques Goldman, qui est venu en concert. Et la troisième année, on s'est dit non, il faut quand même arriver encore à se recentrer sur le monde des enfants. Et alors, on essaye de garder toujours une tête d'affiche, parce qu'il faut véhiculer du monde jusque chez nous. L'année dernière, on a eu Henri Dess, donc chanteur pour enfants. Cette année, c'est Steve Waring qui vient chez nous. Voilà, donc c'est pendant... deux jours de fêtes et de spectacles, mais en fait c'est un festival qui dure pendant 7 jours, parce qu'il y a chaque année, du lundi au samedi, un stage qui s'appelle les Arts Magiques, où 24 à 28 jeunes viennent pendant une semaine préparer un spectacle où il peut y avoir de la magie, de la danse, de la clownerie, du chant, et c'est eux qui font en fait l'ouverture du festival le samedi avec un spectacle gratuit.
Donc il y a la culture de la nature, mais il y a aussi la culture du spectacle.
Oui, de toute façon, on est là pour s'amuser. Alors, ce qu'on a rajouté cette année, par exemple, sur le dimanche, on a enlevé beaucoup de spectacles et on a voulu revenir à... Alors, on n'a pas trouvé encore une appellation qui tienne la route, mais on voulait partir sur les dimanches matins tranquilles, les dimanches nature. On voulait en fait proposer des choses que papa et maman puissent faire avec les enfants et pas simplement emmener un enfant à un spectacle. On a créé au sein d'un jardin pédagogique, on a créé un sentier pieds nus qui sera ouvert que pour le festival, où là on incite les parents à aller se promener sur un sentier pieds nus, à fabriquer des parfums. On va avoir de la fabrication de jus de pomme fait par une équipe d'animateurs, mais le résultat c'est pas qu'avoir du jus de pomme, bien sûr les enfants vont le boire, mais c'est leur faire comprendre comment se crée un fruit sur un arbre, comment ça marche, de la fleur au fruit, voilà, on va travailler là-dessus. Du bricolage, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec simplement une planche de bois, du papier de verre, une perceuse, un peu de colle, un peu d'huile de lin. Donc ça, c'est des parties d'activité nature qu'on a rajoutées encore cette année dans le festival pour affirmer une identité.
Une identité forte et un positionnement fort sur le territoire altiligérien. En tout cas, c'est l'image que, que vous nous donnez. Je le rappelle, si on veut plus d'informations sur le festival Le Chaudron Magique, www.écoledelanature.
Exactement, c'est le même site.
Ok, le même site internet. Une dernière question en trois mots. Comment vous pourriez définir l'école de la nature ?
Une équipe dynamique, une équipe d'animateurs, une équipe de cuisine qui se met vraiment au service des enfants qui reçoivent toute l'année. Ça fait plus de trois mots,
ça
mais c'était
plus
l'essentiel.
Ça fait trois mots.
Voilà.
Bon, on vous l'accorde. Ok, très bien, merci en tout cas
merci
d'avoir
à vous.
Été avec nous.
Merci.
Toujours dans l'émission Aura des Pâquerettes, au musée des croyances populaires au Monastier, nous accueillons dorénavant une autre amoureuse du Mézinc, Christine Arsenault. Bonjour.
Bonjour.
Alors Christine Arsenault, vous allez nous parler de votre rencontre avec le peintre chinois Lu Yongzong.
Oui, en fait, Lu Yongzong est effectivement donc un peintre chinois qui est venu pour la première fois en 2011 en Haute-Loire. Et depuis ce temps, je consacre toute mon activité à travailler avec lui. C'est-à-dire qu'il a peint la Haute-Loire avec une technique de peinture paysanne chinoise. C'est une peinture très colorée qui est classée au patrimoine culturel immatériel de Shanghai. Et Lu Yongzong en est l'un des peintres les plus renommés en Chine.
D'accord.
Et chaque année, donc, il vient 2-3 mois en Haute-Loire depuis 2011. Et je l'ai accompagné sur les chemins de notre département, à pied, pour lui montrer un peu les sites emblématiques de la Haute-Loire. De retour en Chine, il peint nos paysages, nos villages, nos petites villes, et puis aussi la vie rurale, parce que la peinture paysanne, c'est un art ancestral, hein, qui sont les paysans qui peignaient leur vie, leurs émotions, qu'ils ne pouvaient pas exprimer. Donc c'est un art qui date de plus de 1000 ans et qui a été, on va dire, reproposé au public après la révolution culturelle. Donc, Lu Yongzong est vraiment charmé par la Haute-Loire.
Et pourquoi est-il venu en Haute-Loire, précisément ?
C'est une longue histoire. On pourrait passer une semaine ensemble pour, pour faire bref. Moi, je travaillais, j'avais une maison d'édition en Haute-Loire. Donc, j'éditais avec un photographe, j'éditais des livres photos sur la Haute-Loire. Et j'ai édité un conte écrit par une amie ardéchoise, hein, La Plaquette de Sagesse, un conte chinois. Cette amie a écrit ce conte pour les 20 ans d'une petite fille des minorités Miao en Chine qu'elle avait parrainée pour qu'elle puisse aller à l'école. J'ai décidé, séduite par l'histoire, j'ai décidé d'éditer ce conte. Ayant enseigné en Chine, Fabienne m'a proposé les illustrations de Lu Yongzong. Je fais très court, hein, très bref. Et j'ai édité ce conte. Et pour la sortie du livre, je me suis dit... Si on exposait les peintures originales du conte au Puy, donc j'ai obtenu, grâce à la mairie, le théâtre. Et puis, je me suis dit, et si je faisais venir ce peintre pour la sortie de ce conte ? Voilà, édité et imprimé en Haute-Loire, je précise. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et depuis 2011, on passe beaucoup de temps ensemble.
Les sujets du peintre, donc Lu Yongzong, ces sujets sont essentiellement des paysages ?
Sont des paysages avec des personnages. Enfin, c'est une peinture qui exprime toujours des scènes de vie quotidienne.
D'accord.
Donc, on y retrouve le monde paysan. D'ailleurs, il a une phrase qui lui plaît beaucoup et qui résume vraiment, je pense, la personne qu'il est. Il dit « Mieux vaut être un peintre paysan qu'un artiste qui s'éloigne de la vraie vie ». Et le terme peintre paysan, c'est vraiment en Chine quelque chose de reconnu. Ça fait partie du patrimoine. C'est pas simplement, c'est pas banalisé. C'est vraiment une peinture Donc pour les auditeurs, c'est une peinture très colorée. Lu Yongzong est quelqu'un qui a actuellement 50 ans. La première fois qu'il est venu en Haute-Loire, les gens s'attendaient à voir un monsieur d'un certain âge, avec une grande barbe, avec une robe et des grandes manches et des pinceaux chinois. Or, c'est un monsieur qui a 50 ans, qui est habillé tout en noir, qui a une casquette et qui fume cigarette sur cigarette.
Voilà. Oui, comme beaucoup de Chinois.
Et donc, moi, j'ai commencé à éditer, à proposer les expositions de ses peintures en Haute-Loire, à éditer des livres, des cartes postales, et puis ensuite, pour aller un peu plus loin, à chaque fois qu'il vient, on organise des ateliers bénévoles dans les milieux ruraux. Donc, on a fait ça à Saint-Pierre-du-Champ, une année, on a fait ça à Tence, on a fait ça au service gérontologie de l'hôpital du Puy. Et c'est toujours des moments absolument magnifiques. C'est quelqu'un qui est dans le partage, et en sachant qu'il ne parle que chinois. Il ne parle pas un mot de français, il ne parle pas un mot d'anglais. Donc c'est vraiment une aventure humaine qui me passionne. Je consacre, depuis 2011, je consacre tout mon temps à travailler avec lui.
Les formats de ces tableaux des petits, des grands formats, comme son acolyte Peng Ming.
Alors, les formats de ces peintures sur la Haute-Loire sont des formats qui ne sont pas très grands. Hein. Les plus grands font 60 cm sur 90. En Chine, il fait des très grands formats. Donc, ce n'est pas des grands formats. Par contre, on a un projet qui a abouti déjà, qui n'a pas été exposé, hein, mais je parle pour la première fois en public. C'est que depuis 2012-2013, on a commencé un travail sur le chemin de Compostelle. Donc on a fait une première fois le Puy-Conque à pied. Il y a eu une exposition en Haute-Loire sur les paysages du Puy à Conque.
C'est celle qui attend actuellement.
Attends, s'il y a à la fois les paysages de Haute-Loire et à la fois des petits formats sur le Puy-Conque. En sachant que ce ne sont pas les peintures originales, la plupart des peintures originales ont été vendues. Et là, j'ai proposé cette année une nouveauté, ce sont des reproductions sur cadre aluminium. Ce qui allie un peu la modernité et la tradition, et le rendu, je le trouve magnifique.
D'accord. Est-ce qu'il travaille in situ, c'est-à-dire sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle? Est-ce qu'il s'arrête simplement, il fait des croquis, il prend des photos et puis après qu'il retravaille dans son atelier, par exemple, ou ailleurs, ou il le fait directement comme le faisaient les impressionnistes fin du 19e?
Non. Sur le chemin de Compostelle, il fait des croquis.
Il fait des croquis.
Des photos. Moi, je fais énormément de photos, de tout et de rien. Et ensuite, on travaille en Chine. Voilà, parce que l'œuvre qu'on a commencé sur le chemin de Compostelle, c'est au niveau format, c'est quelque chose d'assez unique au monde. C'est qu'on a réalisé un rouleau chinois qui fait 80 cm de haut et 30 mètres de long.
D'accord.
Deux fois 15 mètres.
Donc un joli projet.
C'est un projet absolument fabuleux qui devait être exposé en 2017 au Puy-en-Velay. En Espagne, au Luxembourg, au Canada, enfin bon, sauf que les aléas de la vie font qu'il a eu un grave souci de santé sur le chemin de Compostelle espagnol. Voilà, 4 mois d'hospitalisation, du coma, et qu'on avait mis en stand-by ces projets qu'on espère exposer en 2022. C'est quelque chose qui doit se présenter dans des lutrins, donc c'est ces meubles où les gens vont passer devant, voilà. Ça, ce sont les musées qui s'occupent du mobilier. Voilà, ça, ce n'est pas ma partie. Moi, ma partie, c'est de parler de cette aventure, de ces rencontres, parce que c'est des rencontres vraiment, d'un point de vue humain, c'est magnifique. C'est un artiste, on marche ensemble, il va à la rencontre des gens, il aime l'humain, les hommes, les femmes, les enfants, les personnes âgées, et ce duo qu'on a, cette passion qu'on a à véhiculer des idées, on va dire, hein, du partage, c'est une tradition orale, c'est-à-dire je le raconte depuis des années. Voilà. je le raconte. Et puis, il y a énormément de gens qui sont séduits. C'est-à-dire qu'en Haute-Loire, il y a une population... Enfin, je ne sais pas, je vends... Je ne vais pas donner de chiffres, mais je vends plus de 7-8 000 cartes postales des peintures de Lu Yongzhong en Haute-Loire chaque année.
Oui, ce qui est énorme.
Enfin, donc, dans des... Moi, je vends aux libraires, aux points de vente. C'est énorme, quoi.
C'est énorme. Ouais, ouais. Et... C'est très coloré, hein, ce que je peux voir du travail de cet artiste, c'est que le rendu est très coloré, c'est des couleurs en aplat, il me semble.
C'est de la gouache sur feuille de riz.
D'accord, c'est de la gouache.
Ouais. Et c'est une technique vraiment très particulière, on n'a pas le temps d'en parler là, mais on ne peint pas directement sur la feuille de riz, il y a tout un procédé, on peint sur... sur un papier genre craft, ensuite la feuille de riz est posée dessus, c'est redécalqué, les couleurs sont mises, il y a des codes à respecter, ça passe dans des machines avec un papier en dessous pour que la feuille de riz soit absorbée et devienne exposable en fait.
Très méthodique.
Oui, c'est très méthodique. Ouais. Ouais.
D'accord.
C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Ce qui est fabuleux, c'est que c'est un artiste qui est vraiment très renommé en Chine. Et qui vient là, en Haute-Loire, très simplement, à la rencontre des gens. C'est aussi quelqu'un qui peut animer des ateliers avec différentes personnes, différents publics, en ne parlant que chinois. Donc tout se passe par le mime et un tableau où il fait un rond, un autre rond, les gens pratiquent, et puis ça construit un dessin, chacun repart avec son dessin très coloré. Je trouve ça fabuleux. Donc d'école, il a fait des interventions dans des écoles, et puis avec des gens âgés à l'hôpital, donc c'est assez fabuleux. Au niveau communication, je ne parlais pas un mot de chinois en 2011, et après 1300 km passés ensemble, et puis tous ces mois, c'est un professeur exceptionnel, donc je parle chinois. Nous communiquons en chinois...
Alors là, chapeau.
Oui.
Un petit mot en chinois.
Ni hao. Bonjour.
Je vous remercie, Christine Arsenault, donc, pour cette belle rencontre avec le peintre chinois Lu Yongzhong, qui est donc actuellement visible. Hein, ses travaux sont visibles à Tens.
Ah oui, si je peux rajouter, il y a aussi une exposition au Camino, au Puy-en-Velay. Les gens ne connaissent pas beaucoup le Camino, mais on fait un peu partie des murs au Camino. C'est-à-dire qu'il y a une très belle exposition en 2012. Et depuis, on demande sans arrêt des expositions de Lu Yongzhong. Donc on y voit... une exposition un peu champêtre dans ce lieu que j'adore. Hein. Il y a un jardin pour prendre des consommations magnifiques, une maison où on trouve quelques peintures originales encore, des reproductions sur papier d'art, des reproductions photos, et où toute l'histoire de sa rencontre avec la Haute-Loire et notre rencontre est écrite. Voilà. Donc ce sont vraiment deux expositions vraiment différentes, mais le Camino vaut le coup aussi d'aller voir pour, on va dire, l'histoire de ce peintre et de pourquoi il est parti. Nous sommes partis sur le chemin de Compostelle.
Je vous remercie. Donc, vous avez compris, cher auditeur, cet artiste Lu Yongzhong est visible à deux endroits en Haute-Loire, à Tens et également au Camino, au Puy-en-Velay. Voilà. Je vous remercie.
J'ai un site donc, qui s'appelle La Croisée des Idées. La Croisée des Idées, c'est un site qui n'est pas actualisé. C'est pas trop mon truc, mais on y trouve aussi plein d'autres choses. Voilà. Merci à vous de m'avoir reçu dans votre émission.
Merci.
Vous venez d'écouter Aura des Pâquerettes.
Une émission proposée par Aura FM, la Fédération des radios associatives non commerciales d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Merci de votre écoute et à bientôt sur cette antenne à la rencontre d'un nouveau territoire.
Sur le site aurafm.org.